Le débat du jour.
Romain Ouzoui.
Bonsoir à tous. Alors que c'est aujourd'hui la journée mondiale sans Facebook, je vous propose de nous interroger ce soir sur l'évolution des réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux constituent pour 62% des Américains la première source d'information. Or, qui alimente les réseaux sociaux? Les utilisateurs et non pas les journalistes. Et cela peut donner lieu à des dérives, comme on l'a vu notamment en France, dans le sillage du mouvement des Gilets jaunes, avec des pages complotistes qui se sont multipliées. Alors malgré ces dérives et dans un climat de défiance vis-à-vis de la presse, est-ce que les réseaux sociaux sont devenus les nouveaux médias? C'est la question que nous posons ce soir.
RFI.
Et pour en débattre, nos deux invités en studio, Sophie Géhel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'université Paris 8, spécialiste des pratiques numériques et informationnelles des jeunes. Face à vous, Daniel Schneiderman, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste et directeur du média Arrêt sur Image. Alors d'abord, bon, on n'est pas là pour spécifiquement débattre de la défiance actuellement à l'égard des journalistes, mais est-ce que, selon vous, Daniel Schneiderman, c'est la première cause de la montée en puissance aujourd'hui des réseaux sociaux?
Je pense que la première cause de la montée en puissance des réseaux sociaux, c'est la technologie qui a fait qu'on a des réseaux sociaux, qu'on a Internet, et que voilà, et que le numérique s'est emparé de tous les aspects de la vie sociale. Après, dans le domaine particulier de l'information, je ne sais pas si c'est la première cause, mais c'était évidemment une des causes, c'est-à-dire que les gens, pour des mauvaises raisons, mais je pense beaucoup de bonnes raisons, ne font plus confiance dans les pays développés aux médias institutionnels, traditionnels. Quand je dis pour des bonnes raisons, à commencer par la première de ces raisons, un des principaux reproches qui sont faits aux médias aujourd'hui, en France par exemple, est d'être tous concentrés entre les mains d'un tout petit nombre d'industriels privés, hein, de milliardaires comme
des
on dit,
de
groupes de presse, à l'exception des médias publics comme celui sur lequel nous sommes ce soir, et que ce qui est reproché à ces médias, c'est effectivement un traitement biaisé de l'information impulsée par leur mode de propriété. Je pense que ça, c'est une bonne raison, une raison valable de se méfier de ce que peuvent dire les médias institutionnels traditionnels. Oui.
Sophie Géhel, la crise de la presse, première responsable finalement de ce que sont aujourd'hui les réseaux sociaux.
C'est compliqué à dire parce que c'est réciproque. Hein. C'est aussi les réseaux sociaux qui accélèrent la crise de la presse en les privant de leurs ressources publicitaires. Et ensuite, la question de la confiance, elle est très très compliquée parce que vous avez à la fois une défiance très grande, et je crois qu'on fait partie des champions du monde de la défiance vis-à-vis des médias en France.
J'ai l'impression que c'est global à beaucoup de pays, parce qu'il y a une étude qui dit que 28 pays, dans 28 pays, les médias constituent l'institution en laquelle les gens ont le moins confiance.
Bon, nous, ce sont les partis politiques qui sont l'institution qui est encore qui inspire encore moins confiance.
C'est ça, ouais.
Et en lien, évidemment, puisque les médias sont suspectés d'être très dépendants à la fois des pouvoirs politiques et des pouvoirs économiques. Mais ce qui est compliqué, c'est que la bataille de la confiance n'est pas perdue par les médias vis-à-vis des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on a effectivement un nombre de plus en plus important de Français et dans le monde, dans le monde où Internet est très accessible, on a de plus en plus de gens qui s'informent via les réseaux sociaux, mais quand on pose la question de la confiance, la confiance est beaucoup plus grande dans les médias professionnels que dans les réseaux sociaux. Et ça, même, y compris en France. Donc, je crois qu'il y a
confiance demeure auprès de la presse, ou en tout cas, elle est moins pire, c'est ça, en gros, que vous êtes en train de nous dire, auprès de la presse auprès des réseaux sociaux,
sachant que la
confiance auprès de la presse, on vient de le dire, elle est assez basse.
Oui, mais elle est basse, mais quelque part, je me demande si c'est pas une situation normale, si vous voulez. C'est-à-dire que nous sommes dans des zones d'incertitude. Je pense que même par rapport aux experts, par rapport, nous sommes dans des zones d'incertitude, et donc quelque part, la défiance fait aussi partie des caractéristiques de la démocratie. Je veux dire, il est normal que le public soit dans la défiance. Ensuite, il classe quand même les médias professionnels comme des sources beaucoup plus fiables que les réseaux sociaux.
Alors, je sais pas quel est le quels sont les sondages qui permettent de dire ça. En tout cas, il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont plus confiance dans les médias traditionnels. Je crois qu'il faut se méfier des sondages.
Votre constat est plus sévère, vous, que celui de Sophie Gilles.
Je pense qu'il faut se méfier des sondages que publient les médias traditionnels. Parce que les médias traditionnels ont évidemment tendance à publier des sondages, qui expliquent que les gens ont confiance dans les médias traditionnels. Vous savez, tous les médias biaisent. Enfin, je veux dire, un média biaise l'information qu'il présente. Je reviens une seconde sur la présentation que vous avez faite au début de l'émission. Vous avez dit, voilà, il y a les réseaux sociaux, il y a les médias, et puis il y a quand même beaucoup de fake news et de choses pas très certaines, pas très vérifiées sur les réseaux sociaux.
Du site complotiste, enfin de page complotiste.
Oui, mais vous savez, il y a aussi beaucoup de biais dans les médias traditionnels. Énormément. Mais je veux dire, quand on présente le panorama général.
Oui, on pense fake news réseaux sociaux.
Oui.
Est-ce que les fake news sont pas d'abord relayées par les réseaux sociaux?
On pense à ça. Mais je vais vous donner un autre exemple qui montre que les médias traditionnels sont loin d'être parfaits. Le mouvement des Gilets jaunes. Mm-hmm. Nous, à Arrêt sur Image, début janvier, c'est-à-dire après que le mouvement avait débuté le 17 novembre, on s'est dit tiens, c'est bizarre, on entend quand même peu parler des bavures policières et des manifestants éborgnés ou mutilés au journal télévisé. On entend peu parler, alors que sur les réseaux sociaux, sur Twitter, le recensement a été fait au jour le jour. Et on a vérifié et on s'est rendu compte début janvier que les 20 heures de TF1 et de France 2 n'avaient pas consacré un seul sujet complet aux violences policières.
Qui a tort, qui a raison?
Là, en l'occurrence, je trouve que c'est quand même un problème, si vous voulez, après un mois et demi, de mouvement social et des dizaines de blessés, d'avoir des chaînes de télévision qui ne consacrent pas un mot aux violences policières. Donc, si vous voulez, les biais, ils sont partout. Il y a évidemment des biais de Facebook, on va en parler si vous voulez. Il y a des biais de Twitter, il y a des sites complotistes. Il y a aussi des biais importants dans les médias traditionnels.
Alors, en écho à ce que vous venez de dire, je voudrais vous faire écouter justement un témoignage, celui de Gabin Formont. Il est l'homme qui a lancé, vécu une page créée sur Facebook, justement, créée par les Gilets jaunes, suivie par 60 000 personnes. Et Gabin Formont, alors j'attends vos réactions, nous explique justement pourquoi il a lancé cette page en réaction au traitement médiatique du mouvement des Gilets jaunes. On l'écoute.
Le premier reproche qu'a donné Vie a vécu, c'est les blessés. C'est la façon de traitement de l'information des blessés. Et je suis pas le seul à le dire. Il y a des gens très intégrés dans le milieu du journalisme qui l'ont dénoncé. Voilà, on voit bien qu'il y a une volonté de protéger le gouvernement. Je pense qu'aujourd'hui, il faut réinventer la presse. Je suis pas journaliste, mais je fais un travail journalistique à ma façon.
Voilà, donc ça renvoie complètement à ce que vous disiez, Daniel Schneiderman. Je ne suis pas journaliste, mais je fais un travail journalistique. Est-ce que toute notre problématique de ce soir n'est pas résumée dans cette phrase? Est-ce qu'il y a une confusion des rôles aujourd'hui entre citoyens et journalistes?
Moi, je ne dirais pas que ça soit une confusion. Moi, je dirais que les réseaux sociaux, c'est la revanche des publics. Mm-hmm. Donc, c'est la revanche des publics qui ne passent pas à la télévision. Donc, effectivement, ils sont là pour dénoncer un certain nombre de biais, mais qui sont liés à des expériences de vie différentes. On a une endogamie très forte dans le milieu journalistique, dans le milieu dans les élites dirigeantes qui ne sont pas qui n'a pas changé, je veux dire la promesse qui était faite avec le renouvellement des gouvernants qui était de dire on va avoir des personnes qui viennent de la société civile, donc on va avoir un renouvellement du point de vue du gouvernement. On s'est rendu compte que c'était pas le cas. La République en marche, n'a pas fait venir les milieux populaires dans les instances de pouvoir. Donc on a une réaction des publics qui est très vive. C'est, on la voit aussi dans le fait que la représentation, même en dehors du traitement ponctuel de tel ou tel sujet, la représentation de la société française qui est faite par les médias, elle est extrêmement biaisée elle-même. On a à peu près, si les cadres représentent à peu près 20% de la population française, même pas, je crois que c'est plutôt de l'ordre de 15%, ils représentent 70% des personnes qui parlent à la télévision.
Alors, on vient de citer le mouvement des Gilets jaunes. Dans ce cas-là, pourquoi, par exemple, la haine à l'égard des médias s'est concentrée essentiellement sur une chaîne d'information en continu comme BFM TV, qui se veut un média populaire et qui est régulièrement pourtant traité de télé-gilets jaunes, alors que donne régulièrement la parole aux Gilets jaunes.
Parce qu'on n'est jamais content de la manière, on n'est jamais content de la manière dont on est traité par les médias. Ça, c'est classique, hein. Tout le monde le sait bien. Je veux dire, les Gilets jaunes ne sont pas contents de la manière dont BFM les traite parce qu'ils estiment que.
Il y a des issues, on a l'impression que
BFM.
C'est vraiment l'institution et non pas le contenu. Alors.
Accorde trop d'importance, si vous voulez, aux violences, les samedis de manifestation. Et en même temps, on a des échos selon lesquels le gouvernement est aussi absolument furieux depuis 2 mois du traitement de BFM, parce que le gouvernement trouve que BFM donne trop la parole à des gilets jaunes, comme ça, piochés dans la rue au hasard. Ça, je dirais que c'est traditionnel. Mmh. Voilà. Moi, si vous me demandez, je suis plutôt du côté de ceux qui pensent que BFM a joué, et les chaînes d'infos en général, mais enfin, on parle de BFM parce que c'est le leader, BFM a joué un rôle tout à fait néfaste, si vous voulez, dans la couverture du mouvement, en consacrant des directs et des directs avec des plans fixes, les premiers samedis et les premiers actes sur des cabanes de chantier ou des voitures en train de brûler, qui donnaient l'impression que le pays entier était à feu et à sang et qu'il était d'une plus-value informationnelle absolument nulle.
Justement, est-ce que c'est pas le problème, à travers ce que vous pointez de BFM TV, est-ce que c'est pas le problème aujourd'hui des médias qui veulent finalement peut-être calquer à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, à savoir aller toujours plus vite?
Ils n'ont pas attendu les réseaux sociaux.
Il y a de ça, mais si on revient sur la défiance et si on revient sur la cassure, hein, entre dans la perception de la représentation médiatique, il faut voir que cette cassure, c'est une cassure sociale. Donc les gilets jaunes, c'est plutôt les classes populaires, on va dire, même si c'est pas l'ensemble des classes populaires qui se sentent concernées par ce mouvement. Or, du côté des classes populaires, il y a une plus grande défiance vis-à-vis du fonctionnement de l'information, vis-à-vis des journalistes. Ça se voit dans toutes les enquêtes, hein, qui peuvent être faites. Et cette défiance plus grande, elle vient aussi du fait qu'ils considèrent, moi je fais des enquêtes auprès notamment d'adolescents ou de jeunes
justement,
adultes.
J'allais vous poser la question auprès des jeunes, vous avez travaillé sur ces questions-là.
Si vous voulez, le sensationnalisme, vous voyez, le sensationnalisme de chaînes comme BFM TV qui a enfin compris qu'il allait falloir ne plus monter en boucle les images de violence. Eh bien ça fait violence aussi. C'est-à-dire, c'est pas... effectivement, c'est surprenant de penser que la chaîne qui a traiter autant les gilets jaunes se retrouve aussi celle qui est la plus détestée. Mais je crois que c'est vraiment une question de ton et une question de sensationnalisme.
Daniel Schneiderman.
Oui, non, je suis complètement d'accord sur ce, si vous voulez, le côté schizophrène, si vous voulez, à la fois des reproches qui sont faits à BFM de chaque côté.
Alors vous avez cette semaine dans Libération, vous avez fait un exemple assez intéressant, vous avez comparé les échos d'un fait d'actualité sur les réseaux sociaux et ce même fait d'actualité analysé dans la presse.
Je pense que je vois de quoi vous allez parler.
Voilà, dans Libération, la nomination en France d'Alain Juppé au Conseil constitutionnel. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement ces différences de traitement?
C'est tout à fait typique, si vous voulez. Ce qui m'a beaucoup frappé, bon, donc Juppé est nommé au Conseil constitutionnel. J'allume BFM et on en fait des louches sur son allocution de départ à la mairie de Bordeaux, sur sa voix qui s'est étranglée, sur les larmes qui lui sont montées aux yeux et tout. Donc on fait du pathos avec le départ de Juppé. Et j'attendais quand même dans les biographies, dans les rétrospectives, si vous voulez, un mot tout de même dans le récit de sa carrière sur la condamnation dont il a été victime pour emploi fictif et qu'il a obligé à s'exiler 1 an au Québec, et pas un mot. Bon, et là-dessus, vous vous mettez sur Twitter, si vous voulez, et vous n'avez que ça. Mm-hmm. Vous n'avez que ça, un repris de justice au Conseil constitutionnel, quel scandale, c'est la première fois que, etc. Et évidemment, une insensibilité totale au pathos et aux larmes. Et ce qui m'a frappé, c'est finalement, c'est pas de chacun des deux supports ait choisi un peu son angle, c'est qu'il n'y avait pas d'entre-deux, si vous voulez. C'est qu'il y a eu très peu de récits de cette nomination, incluant à la fois l'aspect humain de Juppé, très triste de quitter Bordeaux, et l'aspect, j'allais dire, politico-policier de, effectivement, ça, voilà, on a un condamné qui va siéger au Conseil constitutionnel.
Ça veut dire quoi? Les médias complaisants et les réseaux sociaux libres de parole?
Ça veut dire qu'il n'y a pas d'entre-deux. Mmh. Voilà, c'est que, alors moi par
comment le trouver?
Moi par fonction, si vous voulez, puisque c'est un peu mon job, je suis en permanence en train de faire le frontalier, c'est-à-dire de passer la frontière et de passer des réseaux sociaux à la consommation de médias traditionnels, lire Le Monde, regarder le JT, et je suis frappé par le fait que on a maintenant deux discours de vocabulaire, de mode de relation, dont j'ai l'impression qu'ils divergent d'une manière progressive et dont j'ai l'impression qu'ils sont en train de créer chacun son public, quoi. Le sentiment que j'ai, c'est que maintenant, on a des gens qui s'informent quasi exclusivement sur les réseaux sociaux et on a, on va dire, le vieux public, les voilà, qui sont là, mais jusqu'à leur mort, ils continueront à lire le journal, le journal papier et à regarder le journal de 20 heures.
Est-ce que c'est ce que vous avez observé auprès des jeunes, Sophie Gaël?
Non, je suis pas tout à fait d'accord. Moi, j'ai regardé un petit peu ce qui se passe, par exemple, à la suite de certaines émissions. Alors, c'est pas que de l'information, hein. Des émissions comme On n'est pas couché ou des émissions comme TPMP. Regardez un petit peu ce qui se passe sur Twitter et on voit à quel point les deux mondes sont complètement interpénétrés. Donc moi je crois pas, je crois qu'on est vraiment sur une convergence, une interpénétration. Ensuite que cette façon de cette infiltration, si vous voulez, réciproque, hein, parce qu'il y a une instrumentalisation. Alors le roi, je dirais, de la chose, c'est l'équipe de TPMP, hein, qui s'est encastrée complètement. Touche pas à mon poste. Qui s'est complètement.
On peut dire c'est une émission française de divertissement.
Émission française de divertissement qui a fait une large part d'ailleurs
sur C8.
Qui a fait une large part d'ailleurs au Gilets jaunes, hein, qui est devenu d'ailleurs l'intermédiaire entre le gouvernement et les Gilets jaunes. Aujourd'hui, c'est Cyril Hanouna. Et ils sont très très forts pour coacher leur public sur Twitter. Alors, donc il y a pas de séparation. En revanche, sur On n'est pas couché, on n'est pas du tout là-dessus. Et les échanges qui se prolongent. Enfin, ce qui est frappant, c'est au contraire que les réseaux sociaux peuvent être un prolongement à la fois inciter à du replay, au fait de regarder. En différé des émissions. Par exemple, On n'est pas couché, qui est diffusé le samedi soir à 1h du matin, et regarder et discuter dans le dimanche après-midi sur Twitter. Donc c'est amusant. Alors, ce qui est vrai, c'est que Twitter n'est pas non plus un espace où les débats peuvent être, complexes, nuancés, etc. Donc l'hystérisation qui est déjà présente dans les débats télévisuels va plutôt se prolonger, en fait, sur les réseaux sociaux.
Entre les médias et les réseaux sociaux, donc il y a un temps pour tout, chacun son tour, chacun à sa place, finalement, nous dit Sophie Géhel. Vous n'êtes pas d'accord, Daniel Schneiderman?
Sur les exemples que donne Sophie Géhel, je suis d'accord avec elle. C'est vrai qu'il y a des exemples. Alors, vous dites convergence. Non, je ne pense pas qu'il y a convergence. Je pense plutôt que ça diverge. Mais en tout cas, oui, sur ces exemples-là, il me paraît clair qu'il y a interpénétration, il y a complémentarité. Ça, je suis d'accord. Moi, je parlais plutôt, si vous voulez, du traitement de l'actualité, enfin, du récit de l'actualité.
Le fait
de l'actualité, de l'actualité nationale, de l'actualité mondiale. On a l'impression de modes de récit différents, de vocabulaire différent, un vocabulaire beaucoup plus cru, beaucoup plus brutal, beaucoup plus frontal sur les réseaux sociaux, je veux dire.
Les
médias traditionnels vont vous parler du chef de l'État, de l'Élysée, de l'autre de l'Élysée, etc.
Les médias doivent se moderniser face à justement.
Sur Twitter, vous entendez parler de Manu, de Macron.
Mais qui a tort, qui a raison? On va pas les juger, mais je veux dire, est-ce que les médias doivent se moderniser face à justement cette montée en puissance des réseaux sociaux?
Si vous voulez.
Pour ne plus être dépassé, que les réseaux sociaux soient pas justement les médias de il y a 10 ans.
Alors, je pense que c'est très difficile pour les médias traditionnels, si vous voulez, de lutter contre, effectivement, cette frontalité de l'expression et cette frontalité du récit. Je vais vous donner mon exemple personnel, si vous voulez. Moi, je suis quelqu'un qui a grandi avec le journal Le Monde, où j'ai travaillé pendant 25 ans, et qui est vu l'actualité à travers les lunettes du journal Le Monde pendant des décennies et des décennies. J'ai basculé sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, mon fil d'information principal, c'est Twitter. Alors, Twitter qui, de temps en temps, m'amène au monde.
Parce que vous êtes représentatif de toute la population française, Daniel Schneiderman.
En tout cas, il y a quand même de moins en moins de gens, si vous voulez, qui regardent le journal télévisé. Il y a de moins en moins de gens qui lisent le journal papier. Je pense que dans les moins de 35 ans, plus personne n'est familier de la palpation du journal papier. Alors, je suis peut-être pas
ça présent. Change pas forcément le rapport à l'écrit. Sophie, ça change pas.
Le mot de la fin, il nous reste 30 secondes.
C'était des questions de temporalité. Voilà. Ce qui est vrai, c'est que c'est des temporalités complètement différentes. Donc la télévision, par exemple, à tort ou à raison, reste un média de confiance parce que justement, il y a un récit qui peut se dire. Alors que dans les réseaux sociaux, on est sur un mode de l'alerte, on est sur le mode de l'urgence.
Je ne sais pas pour qui la télévision est un média de confiance aujourd'hui,
voilà,
pardonnez-moi.
C'est un débat. Quel média de confiance, en tout cas, on a bien compris.
Digital News Report, par exemple.
Chacun son temps, chacun son rythme entre médias et réseaux sociaux. Merci beaucoup, Sophie. Sophie Géhel, maîtresse de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris 8. Merci Daniel Chedarman, journaliste, directeur du média Arrêt sur Image. Merci Alice Ménard à la réalisation de ce débat, Déborah Lepage à la préparation. Restez à l'écoute de RFI dans 30 secondes, c'est le retour de l'info.